Ce sont des, hein? Par exemple, quand vous venez sur les lieux de plonge, vous allez mouiller. Par exemple, vous avez décidé, vous allez plonger ici. Vous allez mouiller l'ancre. Et vous allez faire dériver à peu près sur 200 mètres la pirogue. Et quand il arrive au point mort, si vous voulez, quand il fait tête au vent et qu'il reste à peu près dans une zone bien précise, à ce moment-là, on va mettre le panier, la corde du panier. Et l'aide du plongeur, qu'on appelle le tété, il va préparer le filin avec le plomb dans lequel il va descendre, le plongeur. Vous voyez la pirogue, le panier, cordage du panier, la corde pour l'ancre du mouillage qui est tout à fait là-bas, et il a le plomb qui est sous les pieds. La première des choses, quand ils arrivent, on va mouiller le plomb et on va mesurer la profondeur. Alors, par exemple, il va plonger, parce que c'est par, ils appellent ça en tahitien, piti umi ma piti. Hein? Piti umi.
Si tu veux, c'est 10 brasses. 10 brasses.
Un umi, alors.
Umi, c'est 18 mètres, il descendait dans les 36 à 40, plus de 40 mètres.
Plus de 40 mètres. Bon, alors si c'est à piti umi ma piti, c'est-à-dire à peu près dans les 40 mètres, 38-40 mètres, le plongeur, il sait déjà à quelle profondeur il va plonger. Donc, il se situe la zone. C'est-à-dire, quand il va descendre, il ne va pas descendre droit comme ça. Il va étendre le pied pour descendre en biseau comme ça. Il va s'éloigner du panier. Il va tomber en biseau là-bas, et à ce moment-là, quand il va arriver au fond, il tourne sur 180 degrés, il va ramasser la nacre pour arriver au panier. Il dépose dans le panier et il va monter. Tout ce circuit-là va durer 2 minutes et demie, pas plus. Hein? Vous voyez, c'est ça, c'est ça. Pomme, il descend, il fait demi-tour, il ramasse la nacre. Et puis il arrive au panier, il dépose, il va monter avec la corde du panier. Avant ça, le tété apporte la pirogue, il va rentrer le cordage où il y a le plomb. Et il va préparer pour la prochaine descente du plongeur. Alors, quand le plongeur fait ça qui va faire la circonférence, par exemple, je dis, en faisant une dizaine au moins de plongées, donc, il n'y a plus de nacre à ce moment-là, on va relever le chose et on va changer de place. Ou à ce moment-là, il va arriver un problème. Si, par exemple, toute la matinée, il a plongé et qu'il va arriver à n'avoir que 10 à 15 kilos, et par hasard, il va arriver vers 1h de l'après-midi, il va arriver à une zone où il y a beaucoup de nacre.
Il a sauté dans le temps.
Qu'est-ce qui va se passer dans le cerveau du plongeur? Pour une fois qu'il va arriver sur le lieu où il y a la nacre, il va essayer d'avoir le plus possible. Qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir des plongées répétées. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est sûr qu'il va avoir le travana, s'il ne se contrôle pas. Hein? Et c'est ça, le plongeur, c'est de pouvoir se contrôler. Hein? Se contrôler.
Donc, ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient pas les espèces de trucs qu'on a maintenant pour. Parce que 40 mètres de fond, on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a à 40 mètres de fond.
Non, des fois, ils ont dû avoir un genre de caisson avec une bite et pour regarder s'il y a chose. C'est comme ça qu'ils font le. Je m'appelle déjà ça de. Avatahi Owal. Comme ça. Et alors, ils regardent, ah, il y a un pâté là, on peut plonger. C'est ça, ça leur servait, mais quand il est à 40 mètres, on va aller en bas. Alors, s'il y a un carré là, c'est.
Il y en a, c'est pas comme le parois qui est ancré dans le corail, c'est posé dessus.
C'est posé dessus. Mais seulement, il y a une astuce aussi, c'est de trouver, parce que tu sais que elle se pose à peu près dans une position comme ça. Il y a un côté arrondi et qui fait la. Eh bien, il faut le décrocher de ce côté-là. C'est-à-dire. C'est le côté où il y a l'arrondi, où où il y a un système, tu peux arriver à savoir comment expliquer ça. Mais il y a une position que tu es obligé de...
Si tu prends dans l'autre sens, tu ne l'arraches pas.
Non, tu ne l'arraches pas parce qu'il y a un porte-à-faux. Hein, ah, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un porte-à-faux derrière. Tandis que l'autre côté, c'est bien plat. Ça se pose comme ça. Alors, tu es obligé de soulever. Tandis que l'autre côté, il y a un système qui fait un genre de porte-à-faux. Tout d'un coup. Et ils ont des gants. Hein. Les plongeurs sont obligés de porter des gants.
Mais même quand tu parles de contrôle, ils sont arrivés à des techniques très sophistiquées. C'est quand même un métier épouvantable, enfin, très éprouvant. Plongeur de...
Oui. Si vous voulez, c'est que il y a certains plongeurs, par exemple, quand ils plongent et quand ils reviennent après le circuit là, de 2 minutes et demie, ils reviennent, ils se reposent, ils ont la tête en dehors de l'eau, ils ont le corps dans l'eau, et à ce moment-là, ils vont passer à peu près 5 minutes à s'oxygéner. Alors on entend, ils pleurent presque, hein, on entend ces cris-là, ce n'est pas qu'un seul plongeur, c'est que il y a deux sons qui sont là, vous entendez ça. Ça vous fait un peu mal au cœur, hein, de voir ces gens-là, par exemple. Et lorsqu'ils ont fini de s'oxygéner, à ce moment-là, ils vont faire la deuxième plongée, la plongée suivante. Mais il y a certains plongeurs, quand ils remontent, au lieu de rester dans l'eau, la tête dehors, ils remontent complètement sur la pirogue, ils s'essuient, ils s'oxygènent pendant à peu près 10 minutes, ils replongent. Ceux-là, j'ai remarqué que quand ils ont 60 ans, ils plongent toujours. Les plongeurs, par exemple, qui sont des îles sous le vent, par exemple, ils ne tiennent pas longtemps. 4 périodes, ils sont obligés de quitter. Parce que, comme ils ont un but, c'est devenu gagner de l'argent, c'est un peu assidu au travail. Mais alors, c'est qu'il y a aussi l'oxygénation, il y a des risques. Ouais. Moi, je crois que c'est un peu ça. Moi, j'ai vu un vieux de Hikueru, là, un joueur de saxo dans l'église Kalito. Oui. Oh, il avait 60 ans. Oui, il joue du saxo, il joue très bien. Ce sont des musiciens, ces
copains-là.
Et lui, alors, à 60 ans, je l'ai vu, il plongeait à Hikueru pour des profondeurs de 40 mètres. Hein. Et il rentrait toujours avec ses 40, 42, 43 kilos de nacre tous les jours.
Ils avaient quand même des masques.
Ouais, alors, au début, ils avaient ce qu'on appelait des... qui faisaient eux-mêmes, qui confectionnaient eux-mêmes. C'est une vitre qu'ils ont fait adapter dans une coquille qu'ils ont creusée eux-mêmes sur du bois. Et puis avec un élastique pour mettre derrière. Là, c'était les premiers plongeurs. Mais plus tard, j'ai vu que les plongeurs avaient tous des masques comme ça.
Ça, c'est dans les années 50.
Dans les années 60.
Il y avait d'autres qui fabriquaient avec du bronze, hein, ouais, l'étang, qui faisaient la paire de lunettes, comme ceux des nageurs dans les piscines, quoi, dans les championnats. Ils ont des lunettes comme ça, c'était plus.
Donc pas de tuba à l'époque, pas de plomb, et pas de
ça ne servait, ça sert à rien, les tubas.
Ils avaient, tu vois, comme il expliquait au départ, ils avaient sur une corde, il y avait un plomb, c'est long comme ça, ça dépend de la grandeur, si la personne, ou c'est entre 3 à 5 kilos, pour descendre.
Oui, non, mais ça dépend de la vitesse dans laquelle tu vas descendre, parce qu'il y en a ceux qui ont très mal à l'oreille, hein, au moment de la descente, parce que plus tu vas descendre vite, plus tu auras mal aux oreilles. Il y en a ceux qui sont pas sensible à ça, alors ils descendent avec les pas pour aller plus vite. Mais c'est dur comme travail.
Et là, il n'y avait pas de médecin sur place pour surveiller.
Il y avait un infirmier. Il y avait quand même un infirmier. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est qu'au départ, quand ces plongeurs arrivaient, ils n'avaient fait aucune visite médicale pour savoir s'ils avaient le cœur, s'ils avaient ceci, cela. On arrivait en bonne santé et en plongée. Il peut se faire qu'il y a pas mal qui sont morts aussi par des crises cardiaques, on ne sait jamais. Hein. Il y a eu le Topatari, je suis d'accord. Il y a le Taravana, ça aussi c'est un autre problème. Ça. Mais crise cardiaque, probablement, il y en a beaucoup qui sont morts de ça parce qu'ils n'avaient aucune visite médicale pour voir comme quoi qu'ils étaient cardiaques ou quoi que ce soit. Non.
Donc ils plongeaient de 9h du matin à peu près jusqu'à 1h.
Une heure, parce qu'après ça, comment ça fait
100.
something qui va vers là. Donc ils rentrent déjà assez tôt. Hein?
Et à part les casse-croûtes qui leur amenaient les... ceux qui s'occupaient des pétrolets, il y avait, on a parlé de carapou.
Carapou. Oh, ça c'est un genre de... On fait carapou du carapou.
Pour avoir l'estomac bien plein.
Mais non, moi je crois que lorsque j'ai fait la plonge là-bas en Pérou, les plongeurs préféraient boire du jus de fruits et manger le jus de poire, les boîtes de poire. Hein? Oui, alors ils faisaient un trou, ils buvaient le jus et après ça, ils l'ouvraient complètement pour manger un peu le fruit. Parce que, soit d'après ce qu'ils disent, ça rafraîchit l'intérieur. Ouais. Oui, mais l'histoire de Kararapu, c'est un peu comme des histoires de hippo. On dit, hein, mange trois hippos et comme ça, tu descends plus facilement dans le fond.
Non, on ne croit pas beaucoup. C'est plus de Kararapu que les hippos parce que c'est moins lourd. Hein. Le Kararapu, c'est la farine qu'ils font avec de l'eau de coco ou alors et après, ils font un genre. Si on veut un genre de... Non, c'est plutôt un genre de... la purée, c'est un peu ça. Ils mettaient de l'eau dedans, avec du sucre, s'il n'y avait pas de l'eau de coco. Après, ils mettaient aussi le lait de coco dedans. C'est très bon. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'au Tuamotu, tous les plongeurs, c'était des mangeurs de carapou. Et que même une fois, j'avais employé ça dans un terme plutôt politique pour certaines personnes qui étaient clients de l'argent. J'ai dit, ça y est, pour nous, les Tuamotu, on a été dévancés par certaines personnes ici. Parce que c'est eux qui ont pris leur nourriture, le carapou.
J'avais lu une étude sur Mutu où on écrivait là-bas qu'il y avait donc, je ne sais plus comment ça s'appelle en Mutu, c'était donc à base de taro, de bananes et de...
Popoy.
Oui, la popoy et Mutu, qu'ils emmenaient pour la plonge à la nage. Bon, je ne sais pas si...
Oh, je n'ai pas connu ça. Non, je ne l'ai pas connu. Non, mais parce que... Le pomoutou, je parle du pomoutou plongeur, c'est comme je disais là, c'est le jus de fruits qu'il met dedans. Il mangeait le casse-croûte, comme je disais, là, le pain avec, je ne sais pas ce qu'on mettait dedans, peut-être de la viande, le cornet de bif, comme on fait ça avec des oignons, tati. Mais pour lui que ça remplisse le sol. Mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que lorsqu'on a le taravana, hein, quand il y a un type par exemple qui attrape le taravana, on le soigne, on le soule. Et je sais que 3 jours après, c'est-à-dire pendant, au moment où il a eu le taravana, et après ça, au moment soi-disant de sa guérison, c'est-à-dire 3 jours, il va pas à la plonge. Et puis après ça, on le purge. Je ne sais pas pour quelle raison, mais tout le monde dit qu'il faut le purger. Et puis 2 jours de repos, c'est-à-dire il y a une semaine à peu près qu'il ne va plus à la plonge à ce moment-là. Et ce n'est que par la suite qu'il va retourner à la plonge. Mais à ce moment-là, son tété, ce qu'on appelle son aide, le surveillera de très près. Surtout au moment où il va revenir. Vous savez que plus on est sur le fond, plus il va tirer sur le chose. La pirogue fait des grandes secousses à intervalles assez près. Et quand il va venir vers les 10 mètres au niveau de la surface, les coups seront plus lents. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas le poids de l'eau sur lui. Il sortira plus facilement, il montera plus facilement. Et s'il n'y a plus de secousses, à ce moment-là, il faut qu'il plonge le plus vite possible pour le récupérer.
Et quand il y a un danger, pareil, il faut mettre faut hisser la voile de pareil.
Oui, si. Si, vous savez, sur la pirogue, quel est le rôle de l'aide? L'aide, lui, le matin, il prépare la pirogue. Le cordage est surveillé, surtout la ligne de mouillage, parce qu'il faut bien que la pirogue soit mouillée, il ne faut pas que le cordage se casse. Hein, pendant que l'homme est au fond, parce que là, c'est fini. C'est, hein? Et la pirogue en dérivant va traîner le panier, hein? Parce qu'il descend à l'horizontale, ce n'est pas l'ancre. Alors là, on risque d'avoir quelque chose. Mais pendant qu'il arrive sur les lieux de plonge, après avoir mouillé, après avoir rentré le système, pendant que le plongeur est à la surface en train de se reposer. Lui, il surveille les autres pirogues aussi. Parce que s'il voit souvent l'aide de l'autre pirogue qui est en train de remonter le panier où on a mis de la nacre, il s'aperçoit comme quoi la zone dans laquelle il se trouve, il y a beaucoup de nacre. Hein? Alors, il prévient son plongeur, donc, pour aller aussi dans les parages, c'est peut-être une zone qu'ils pourront avoir un peu de nacre. Voilà le problème. Donc, il surveille. En plus de ça, il surveille aussi les autres pirogues. Quand il arrive un coup dur, à ce moment-là, la pirogue, une pirogue peut hisser, c'est-à-dire une étoffe sur un morceau de bois. Ou alors il fait des signes comme ça. Hein? Oui, c'est la rame. Et bien, à ce moment-là, tout le monde arrive sur la zone pour savoir si c'est un topotari. Il faut aller essayer de le récupérer le plus vite possible. Et alors là, vous savez, quand il monte comme ça, quand il remonte et puis qu'il attrape ce qu'on appelle la maladie, on appelle ça la maladie des profondeurs. Oui. Il ne remonte plus. Il se met à l'horizontale comme ça. Et comme un poisson qui a été piqué par un harpon, il a un mouvement assez bizarre. Et puis, il descend. Oui. Il descend comme ça. Alors, il faut le récupérer le plus vite possible. Paraît-il, maintenant, je me suis un peu renseigné, lorsqu'on le plonge, il est dans une position horizontale vers le fond, mais alors, à plat ventre, on peut le sauver. Donc, il n'a pas perdu l'air. Mais s'il est retourné comme ça, il a plus d'air dans les poumons, il est foutu. Il a avalé de... Voilà les enseignements que je peux donner. Voilà les histoires des plongeurs.
Et est-ce que les aides sont les futurs plongeurs, normalement, oui.
Oui, ils sont jeunes, mais tant qu'ils font leur apprentissage, là. Moi, je crois.
Et la plonge à la nacre date de quelle époque? Début des...
J'ai entendu, il n'y a pas bien longtemps, 1820, qu'on a commencé à plonger la nacre. C'est déjà long, hein? Alors, je suis resté à Bassoudis. On a parlé ça il y a... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a parlé de... À la télévision. Il y en a un qui avait dit la plonge à la nacre a débuté en 1820. J'ai écouté, j'ai dit bon. Mais... Ce que on peut dire, c'est que j'ai fait la plonge en 1956 à Hikuru. En 1971, plus de nacre à Hikuru.
Plus.
Donc, alors, je me suis renseigné. Xavier Su m'a dit comme quoi que dans le lagon de Hikuru, lorsqu'on plonge, par exemple, qu'on arrive vers les 10 mètres de profondeur, on rentre dans un genre de liquide assez gluante, qui est très chaud, qui a une température très élevée. Et cette matière gluante vient de 10 mètres jusqu'au fond. Et probablement, ça augmente la température. Comme dans ce sens-là. Riquet peut en parler, lui, là.
Il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé à nuit, justement, à certains endroits, et c'est malheureux parce que Hikuru, c'était l'île, l'atoll où ça, il y avait davantage de production par rapport à Manitouama. Ça, il faut le connaître, malgré les Kakarois et le Moto. Mais je crois qu'ils arrivaient à 50% de la quantité de nacre
récoltée. Simplement pour ce seul atoll. Est-ce que c'est je fais juste une comparaison. Est-ce que c'est un atoll où il y a une culture de la perle en ce
moment, Hikuru, oui. Si on veut, elle reprend un peu, mais malheureusement, si on veut, on n'accepte pas la nacre de Hikuru. Toi, le jeune nacre, pour essayer de transplanter ailleurs, ça risque que la maladie soit propagée dans l'atoll où on envoie ses nacres. Alors, si Dieu, c'est un peu fermé. Hein. Il y a certains atolls où c'est fermé, pas question de transplanter ailleurs. Hein. Même si c'est à Karouama, mais beaucoup moins. Mais je suis très curieux. Alors là, c'est... la culture de la perle, mais pas aussi importante. Je je sais qu'actuellement, il y a une île qui est très bien lancée, qui est comme vous. Ils ont pas mal de lacs, mais là, il n'y a pas de malade. Ça, ils sont en train de faire l'élevage, justement, des petites nappes pour pouvoir le vendre ailleurs. Bon, ils font un peu de... comment dirais-je... ils ont quelques faits derrière, mais l'entrée de l'inconvénient, comme dit, il n'y a pas d'aéroport. Donc, c'est plus facile comme accès. Après qu'on fasse aussi un aéroport chez eux pour pouvoir augmenter justement le potentiel économique à partir justement de l'appel du culturel. Hein. Maintenant, ceci dit, on va attendre, j'espère que le pas de progrès va permettre. C'est pour pas on parle tellement de pas de progrès, j'espère que ça va se réaliser, ce pas de progrès, et non pas de pas de régression. Alors là, c'est malheureux pour nous.
Mais tu disais là que l'annonce de la saison de la plonge à l'Anax faisait dans le journal officiel. Est-ce que le journal officiel publiait les résultats au moins des quantités récoltées dans les saisons?
Je ne pense pas. Je crois que le service économique.
Il n'y avait pas de quota comme aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de quota en plongée, ce qu'il y avait. Hein. Il n'y avait pas de quota comme aujourd'hui. Quand on a pris des quotas, c'est tant où vous devez plonger. Tant de là, pas plus. À dépasser le quota.
Oui. Oui, mais seulement ils avaient, je disais tout à l'heure, comme quoi que les magasins, les représentants, si vous voulez, qui avaient la patente d'acheteurs de NAC, ils sont au moins 4 ou 5 à mon avis, lorsqu'ils allaient à Marutia Sud, et lorsque leur quota n'était pas rempli, probablement une quantité de NAC, parce que tout ça, c'est un peu... au pifomètre, si vous voulez. Hein, on dit, par exemple, bon, on va ouvrir Marutia Sud, on fait à peu près une estimation, par exemple, oui, oh ben, on va aller à Hikuru, on aura 60 tonnes, par exemple. Malheureusement, des fois, on arrive, on a 40 tonnes. Donc, ils ont un quota de 20 tonnes qui n'est pas là. Et c'est à ce moment-là qu'ils ferment en vitesse Hikuru, parce qu'il n'y a pas de NAC. Et c'est là qu'il demande à l'administrateur d'ouvrir un secteur de Hikuru, c'est-à-dire le secteur qui a duré 3 ans, pour ainsi dire. Et ce secteur-là, on va l'ouvrir, c'est-à-dire qu'on leur donnerait l'autorisation de plonger et d'avoir les 20 tonnes qui manquent. Voilà.
Si on veut, il faut employer le mot qu'on avait l'habitude sur les Goélettes, on partait à l'aventure.
C'est
on n'est pas déterminé, c'est exactement comme les pasteurs de vaches, les magasins allaient là-bas, ils partaient à l'aventure. Ils ne savaient pas exactement quelle est la quantité de nacre qu'ils pourront avoir pendant la saison qui a été autorisée de plonger. C'est le mot, je crois, c'est le thème qu'on a toujours connu, que moi j'ai connu, c'est
on l'aventure. Toujours l'aventure.
Je ne sais plus comme maintenant où on a fait des, comment dirais-je, des licences, il y a tel bateau, elle doit desservir telle île, il doit passer tant. Parce qu'avant, tu allais à l'aventure, on partait à l'aventure, on faisait telle île, tout d'un coup on changeait de ligne, étant donné, on savait que tu avais un bateau qui était passé avant nous, alors on partait directement, au lieu de partir au centre, on allait à l'est ou alors au nord-ouest. C'était un peu ça, c'est l'aventure.
Et comment se faisait la fermeture de la saison de plonge, les derniers jours? Donc ce village provisoire se fermait, tout le monde rentrait chez soi, il y avait ceux qui retournaient à Papeete. Il y avait une fête spéciale, il n'y avait rien.
Non. Il n'y avait pas de fête spéciale, ça se terminait comme ça. C'est-à-dire, il y a toujours un retard des bateaux qui doivent rapatrier ces plongeurs. Et pendant à peu près une dizaine de jours, à peu près, ils vont vivre de la pêche, tout est fermé, il y a simplement quelques magasins qui ouvrent pour vendre un peu de la pâte de bœuf ou de la pâte de beurre. Oui, tout ça est tombé dans un système tout à fait morose, si vous voulez. Hein. Ce n'est plus la joie de la période de la plante de la nacre. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé, s'il y avait un contrôle sur la quantité de nacre. Mais ce que je sais, moi, c'est que lorsque vous expédiez votre nacre, c'est-à-dire le magasin qui va expédier sa nacre à bord d'un bateau, il y a un connaissement qu'il fait il fait un connaissement de ton, de ça, de nac. Et le poids. Et le tavana est obligé de faire, par exemple, un système de déclaration, comme quoi on contre, le contrôle a été fait, et le gendarme était là, qui posait le tampon sur le... sur le, comment on appelle ça, sur le ticket du chef de l'île et qui signait. C'est ça que vous remettez au douanier à papier. Si par malheur, le contrôle de la douane à papier, il y a un sac ou deux sacs de plus dans la quantité qui appartient au magasin, ces deux sacs-là, c'est réquisitionné par la douane.
Ah, quand même.
Ouais. Vous voyez, c'est contrôlé. Donc, eux, ils ont contrôlé probablement le poids aussi en même temps. C'est assez sérieux quand même. Et voilà le rôle des gendarmes. Alors, le rôle des gendarmes, en plus de la sécurité, par exemple, de cette population qui est sur le sol, c'est de surveiller aussi la zone de plongée. Parce que comme c'est partagé en secteurs, donc il y a des pavillons pour délimiter, par exemple, là, la zone de plonge. Et quelquefois, les plongeurs, ils essayent de venir resquiller un peu dans la zone... Hein. Alors les gendarmes sont là, ils font la surveillance et puis ils arrivent, ils foutent pas le PV, c'est ça, ils saisissent la pirogue. Alors, imaginez-vous que vous êtes le magasin, vous êtes le représentant du magasin là-bas et la pirogue a été réquisitionnée. Le plongeur, il va pas aller à la pêche. Pour que le plongeur soit rentable, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé d'aller voir le gendarme s'il y a quelque chose à payer pour récupérer la pirogue pour que le plongeur retourne à la planque. Il y a tout un jeu, un cercle vicieux dans cette affaire-là. Et puis, il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier. Quand il y a un topatari sur le lieu de plonge, et le type est mort, il n'a pas réussi à le sauver. Imaginez-vous la femme et les enfants. Ils sont abandonnés sur les lieux. Ils n'ont plus rien. Parce que si on fait une chose, on recherche par exemple dans le magasin, par exemple, qu'il y a une trentaine de plongeurs, ils sont tous débiteurs au magasin. Si le magasin continue à donner du débit à ces gens-là, c'est à cause de la nacre qu'ils doivent fournir tous les jours. Et lorsque le plongeur meurt, il n'y a plus de rentabilité. À ce moment-là, le magasin ferme les comptes automatique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le magasin, quand même, par exemple, va prendre la décision de rapatrier cette femme. Mais pour que cette femme puisse vivre avant que le bateau arrive, en général, ce sont les plongeurs eux-mêmes qui se cotisent pour essayer de...
Et la plonge n'est pas arrêtée pour un topatari.
Non, c'est simplement le moment.
Le moment et le jour de l'enterrement.
Voilà, tout le monde est là. Tout le monde est présent.
Le jour d'après, c'est la reprise. Hein.
Et ces fameuses NAC, une fois qu'elles arrivent à Papeete, elles sont pas. Il n'y a pas une partie qui reste sur le pays, elles sont toutes exportées.
Ah non. Alors là, il y a. Maintenant, c'est quelque chose à expliquer.
Ah, ça t'arrive pas à nous expliquer, c'est bien.
Oui, parce que ça va vous donner des idées. Bon. Le magasin envoie la nacre à Papeete. Donc, on le reçoit, on va l'entreposer dans un hangar. On ouvre les sacs, on va chercher les femmes pour décaper, le rendre très propre. On décape cette nacre-là, et après, on va sélectionner, parce qu'il y a la nacre numéro 1, il y a la nacre numéro 2, c'est-à-dire c'est la nacre qui a commencé à être piquée.